Jazz Libre, Radio Libertaire, évidemment, c'est magnifique, pas d'autre chose à dire. La note où il faut, quand il faut, ça, c'est un swing absolument imparable, hein, quoi qu'on en dise. Chet a toujours swingé extrêmement fort, faut pas croire. Il y a évidemment, je pense, toujours une inspiration sur le fond du temps qui vient de l'estériaux, hein, cette espèce d'étirement comme ça, mais en réalité ça swing, ça se casse jamais la figure. Et puis il est à noter dans ce double album qu'il y a des morceaux très longs qui durent plus de 10 minutes. Donc voilà, je vais pas tout vous mâcher, hein, c'est à vous aussi d'aller chercher cette beauté. Voilà, c'est vraiment. Et puis également, il chante aussi, puisque ça faisait aussi. Vous savez qu'il a eu quelques soucis avec des dealers qui lui ont pété les dents, et donc il est resté un petit moment sans pouvoir jouer. Donc il chantait. Donc là, il fait les deux, évidemment. Il a gardé toujours cette habitude de chanter, de scatter, d'improviser. Et d'ailleurs, c'est absolument incroyable lorsqu'on le voit, lorsqu'on l'a vu, ou comme moi je l'ai vu sur scène, quand il chante, il chante dans ses chorus comme il joue de la trompette. C'est exactement pareil. C'est absolument magnifique. Donc là, nous allons terminer sur ce double album, je le rappelle, retrouvé par Zef Ellman, qui s'appelle Blue Room, enregistré en 1979 au studio Vara en Hollande, à Hilversum exactement. Et donc là, il s'agit d'une session qui a été enregistrée le 9 novembre 79 avec Frank Elsen au piano, Victor Kayatou à la contrebasse et Eric Ineke à la batterie, et sur un thème évidemment, un vieux saucisson comme on dit, qui s'appelle The Old Devil Moon. Voilà, c'est parti Laurent. Thank you. Radio Libertaire, donc que vous dire de plus, hein, c'est voilà, précipitez-vous si vous aimez Chet Baker, ce sont des inédits retrouvés par Zeffelman qui sont absolument devenus essentiels. Alors nous continuons toujours avec les découvertes de Zeffelman avec celui-ci qui s'appelle Treasures. Trésors au pluriel du Danemark, et qu'il s'agit donc de Bill Evans dans les années 60. Alors, dans les années 60, ça commence les enregistrements très précisément en 1965 et en 1969. Pareil, un livret somptueux de 54 pages avec des témoignages encore de... comment s'appelle-t-il ? Oui, alors, si, un témoignage de Palais Michelborg qui... était trompettiste et en même temps arrangeur d'Alex Riel, de Eddie Gomez, enfin bon voilà, somptueux. Alors c'est un double album absolument magnifique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on l'entend sous différents formats. On l'entend en solo, donc c'est toujours tout à fait intéressant. On l'entend avec en grand orchestre, et j'ai choisi de vous passer un certain nombre de choses en grand orchestre, parce que c'est vraiment très rare. Il avait fait évidemment ces fameuses sessions avec Klaus Egermann, qui débutait d'ailleurs dans les arrangements avec des morceaux classiques comme Bach, etc., etc., Chopin, Scriabine, et donc... là, il reprend, donc c'est très rare, il y a très peu d'enregistrements. Il y a une autre session en Hollande dont je vous ai passé, qui était aussi en grand orchestre. Et donc là également, et puis en 1969, en trio, avec Eddie Gomez et Marty Morell. Et c'est intéressant parce que il y a un album de 1970 qui est enregistré au Japon, je crois que c'est un Live in Tokyo, il me semble, où je crois que c'est Leonard Fizer qui écrit à ce moment-là qu'il y a un petit changement dans le jeu de Bill Evans. Et c'est vrai que de ses débuts en 1900, dans les années 50, notamment lorsqu'il avait été embauché par Cannonball, mais précédemment par Tony Scott, il était encore très, comment dire, sous l'influence de Bud Powell et de Lenny Tristano. Bon, voilà. Et puis, petit à petit, il va s'en affranchir de manière extrêmement évidente. Et donc là, c'est intéressant parce que historiquement, en 1969, on a les prémices de ce qui va développer à partir des années 70 jusqu'à sa mort en 80. Et c'est absolument une trace vraiment redoutablement intéressante pour les historiens que nous sommes. Et aussi par la qualité de la musique. Alors, on va commencer par le début. On va commencer par un premier thème qui est enregistré je recommence. Donc, c'est enregistré à Copenhague en 1965, le 31 octobre, au festival de jazz. Et c'est enregistré dans les jardins de Tivoli, que si vous connaissez. C'est un très 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 joli endroit. Et donc, on va commencer par un thème qu'il va jouer beaucoup par la suite, à partir des années 70, qui s'appelle Beautiful Love, de Evan Gillespie, Wayne King et Victor Young et Heber van Aslein. Et il est accompagné par Nils Henning Ørsted Petersen, plus connu sous le surnom de NHOP, et Alan Dawson à la batterie. Alan Dawson est un magnifique batteur qui a joué avec Dave Brubeck, enfin il a joué avec plein de monde. Malheureusement, il a eu des ennuis de dos qui l'ont empêché d'être plus connu, et il a enseigné, c'est un magnifique batteur, un peu dans l'esprit de Joe Morello. D'où le fait que lorsque Joe Morello a cessé de travailler avec Dave Brubeck, eh bien, Alan Dawson a pris le relais. Donc, c'est absolument un double album somptueux avec des témoignages de tout le monde, comme je vous l'ai dit, et dans des conditions d'enregistrement assez géniales. Juste dernier petit détail qui tue. Le public applaudit en cadence, ensemble. Et ça, c'est typique d'un public qui connaît pas le jazz. Parce que dans le jazz, c'est pas une critique sur le fait qu'ils connaissent pas le jazz, mais je pense que c'est plutôt un public, là, qui écoutait, qui venait plutôt du classique. Parce que dans le jazz, on applaudit après chaque solo de musicien. Donc ça a choqué les musiciens, le public de la musique classique. Lui, il applaudit qu'à la fin des thèmes, et y compris, entre les mouvements, on n'applaudit pas. On applaudit tout à la fin. Donc, Voilà, le public, je pense, était un public plutôt habitué à la musique classique, et donc vous allez voir qu'ils n'applaudissent pas comme comme les vrais puristes que nous sommes. C'est parti, Laurent. Donc nous avons un petit problème, ça va venir après, hein, ne vous inquiétez pas, mais là on a d'abord Beautiful Love qui est dans le premier CD, hein, qui est le numéro 3, dans l'ordre pour être tout à fait logique. Et donc, voilà, j'en profite pour dire, mais je vous le redirai, que... Il y a les arrangements de Palais Mickelborg, qui est évidemment également un trompettiste. C'est bon, me dit à la technique, ça doit être parti. C'est le parti. Jazz Libre Radio Libertaire. Alors, nous allons maintenant écouter non-stop une bonne demi-heure de cet enregistrement au Royal Symphony Orchestra du Danemark et de la radio, du Big Band de la radio danoise, avec quelques musiciens américains exilés. Vous savez que Copenhague a été un grand lieu de réception de musiciens américains, avec évidemment le fameux club au Montmartre, hein, comme il s'appelle. Et donc il y a là Idriss Suleiman, hein, qui musicien qui a joué avec Roland Kirk notamment, entre autres. Il y a Alan Boczenski, Torof Molgaard, alors là, Jesper Tilo, un musicien qui a joué notamment avec Chet Baker, Saïb Siab, évidemment, qui a joué aussi avec Charlie Mingus, NHOP, toujours lui à la contrebasse, et trompette et aux arrangements, et chef d'orchestre, Palle Mikkelborg, qui était un peu dans ses petits souliers. Et ça a donc été enregistré en novembre 1969 à Copenhague. Alors vous allez écouter, donc il y a une petite intro, petite intro. Évidemment, le fameux Waltz for Debbie, le thème que Bill Evans avait écrit pour sa nièce. Le fameux Time Remembered, dont le duo qu'il avait fait avec Jim Hall, et puis évidemment en quintette avec Zoot Sims, c'était absolument magnifique. My Bells, issu évidemment de l'orchestre qu'il avait fait, du disque en grand orchestre classique avec les arrangements de Klaus Ogerman, donc on retrouve un petit peu les mêmes choses. Le Treasures, donc trésor au pluriel, titre de l'album, mais composé par Palle Mikkelborg. De nouveau une reprise de Waltz for Debbie un petit peu différemment, et Walking Up. Donc, que des compositions de Bill, sauf une de Palle Mikkelborg. Il faut aussi ne pas oublier que même si Bill avait un répertoire de beaucoup de standards des années 30, 40, 50, etc., etc., et puis quelques chansons qu'il avait reprises par la suite, des musiques de films comme... musique de MASH notamment, ou A House Is Not a Home, est aussi un compositeur prolixe, parce qu'il a à son actif quand même beaucoup de titres. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de cette musique rare, magnifique, qui vient d'être retrouvée par Zeffelmann. Remercions-le, j'espère qu'il va vivre longtemps pour nous retrouver encore plein de trésors comme ça, parce que voilà, on ne peut que le féliciter. C'est parti, Laurent. Jazz Libre, Radio Libertaire, donc il nous manquait le Walking Up, mais bon, c'est pas grave, puisque en fait, j'avais pas prévu de vous passer celui de solo trompette avec Pam Mickelbord, donc l'un dans l'autre, c'est pas très grave. Alors on va écouter dans maintenant extrait du deuxième volet de ces trésors. Un extrait enregistré à la radio de Copenhague en fin novembre 1965, un thème de Tenniel Huysmans qui s'appelle Round Midnight. Alors c'est intéressant parce que si on se met à imiter Monk, ça n'a aucun sens évidemment. Et donc là, il le joue. C'est d'ailleurs une des dernières fois où il le joue, donc je trouve que c'est assez passionnant de l'entendre en plus comme ça en solo. C'est il y a quelque chose d'assez émouvant, de parfaitement pur et avec un swing évidemment toujours infaillible. Voilà, c'est parti, Laurent. Un petit problème, donc il s'agit de Round Midnight dans un premier temps.
Oui, c'est bon, pardon.
C'est parti. Thank you. le silence après Bilévent, c'est toujours du Bilévent, c'est absolument génial et magnifique. Donc, rien à dire, évidemment, si ce n'est que d'écouter. Alors, nous allons continuer maintenant avec... on continue toujours sur des enregistrements à la radio en octobre 1966. Là, il s'agit de... d'un thème qui s'appelle Detour Ahead de Lou Carter, Herb Ellis et Johnny Frigo. Alors Herb Ellis évidemment guitariste connu, Johnny Frigo aussi. Et donc c'est avec, si je ne m'abuse très précisément, Bill Evans, Eddie Gomez et Alex Riel à la batterie, qui est un excellent batteur danois qui avait qui d'ailleurs témoigne dans ce livret de l'expérience qu'il avait eue avec Bill et Eddie Gomez. Et Eddie Gomez parle également d'Alex Riel dans des termes tout à fait élogieux. Enfin bon, voilà, de toute façon, quand on est embauché par un tel musicien, c'est que, bon, on n'a pas trop de soucis à se faire. Mais enfin, j'imagine quand même que tout le monde devait un peu serrer les fesses quand même. Voilà, c'est parti donc sur ce thème absolument magnifique. C'est parti, Laurent. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire. Alors nous allons continuer avec un thème de Johnny Mandel et Johnny Mercer qui s'appelle Emily, qui est un très joli thème, alors qui est issu d'un film qui s'appelle The Americanization of Emily, en traduit en français par Les Jeux de l'amour et de la guerre. Alors, c'est un film peu connu de Arthur Hiller, qui est peu connu en France en tout cas, mais qui avait quand même des acteurs connus comme James Garner, qui était tout jeune, Julie Andrews, Mary Poppins, James Coburn, hein, évidemment, Melvin Douglas. Voilà, et donc bah, c'est l'histoire d'un militaire en 1944, l'histoire d'un militaire, donc James Garner, qui débarque à Londres et qui tombe amoureux de Julie Andrews et qui elle est veuve et qui a perdu toute sa famille dans la guerre et qui reproche à ce militaire de ne pas avoir combattu au front, et donc il y a toute une série de choses jusqu'au jour où en fait ce militaire est désigné par l'armée pour aller filmer le débarquement des plages de Normandie. Donc voilà. Et donc il y a, c'est un film qui date de 1964 et qui dont le thème Emily est un magnifique thème. D'ailleurs il y a une très belle version de Paul Desmond avec Dave Brubeck en public, je pense vous l'avoir déjà passé, qui était absolument somptueuse. Voilà, donc nous sommes toujours... Non, alors là, pardon, excusez-moi, on a changé, puisque nous sommes avec le trio de Bill habituel, avec Eddie Gomez et Marty Morell, et donc nous sommes le 21 novembre 1969. Et donc là, on a déjà un petit changement dans le changement qui va arriver après, en 1970, dans ce disque charnière enregistré en public au Japon, qui est absolument incroyable, puisque finalement, on s'aperçoit que c'est une progression constante de ce musicien. Et que si on n'avait pas eu retrouvé toutes ces traces phonographiques, finalement, on aurait pu penser qu'il y avait des ruptures. Mais en fait, c'est quasiment impossible qu'il y ait des ruptures comme ça. Donc, c'est une évolution. Et là, on a, en 1969, cette trace de cette évolution absolument incroyable. C'est parti, Laurent. Thank you. Jazz Libre Radio Libertaire, donc là nous allons enchaîner les deux derniers titres toujours tirés de ce double album absolument somptueux avec un thème évidemment archi connu de Bill qui s'appelle Quiet Now et enfin Nardis je pense que c'est pas la première fois qu'il le joue évidemment mais c'est en tout cas là, c'est là où on voit le changement, c'est-à-dire que il va le fixer dans sa forme définitive dans cet enregistrement qu'il va pousser à chaque fois un peu plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, jusqu'à la fin de sa vie. Mais d'habitude, il le faisait pas complètement tout à fait de cette manière, tandis que là, vraiment, c'est là où on voit cette rupture qui apparaît, Nardis, dans sa forme qui va développer petit à petit, sera toujours structurée de la même manière, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'exposé du thème, quelques mesures, ensuite un solo de contrebasse très long, ensuite une reprise du thème, quelques mesures, et ensuite un solo de batterie, et enfin le tout repris à l'unisson. Voilà, et c'est absolument génial, donc encore une fois, un indispensable. Voilà, c'est parti pour ces 12 minutes non-stop entre Quietna et Nardis. C'est parti, Laurent. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire. Donc, avant de faire vite fait un hommage un peu court, écourté à Peter Brotzmann, quelques petites actualités. La première, c'est que vous n'êtes pas sans remarquer que nous sommes en vacances, ou en tout cas les mois de vacances, et j'ai répertorié plus de 110 festivals en France et autour Belgique, Suisse, Italie, Espagne, j'ai pas encore compté, mais donc quand on dit que le jazz n'est pas une musique populaire et qu'on a quand même plus de 110 festivals en France et juste à la frontière, je trouve ça assez plutôt de mauvaise foi. J'en profite également, alors là c'est un petit peu plus personnel, c'est que vient de sortir un livre qui est consacré à Michel Portal, qui est aux éditions Au Fur et à Mesure, et avec des photographies de Guy Le Querec. Alors Guy Le Querec faisait partie de l'agence Magnum et pourquoi je vous parle de ce photographe Guy Le Querec, pas que lui, mais je veux dire l'ensemble des photographes, c'est que derrière tous les artistes, il y a des hommes de l'ombre, des gens qui font tourner la marmite. Et notamment, tous les photographes ne développent pas forcément eux-mêmes et ne tirent pas leurs photos eux-mêmes. Et il y avait un grand laboratoire de photos à Paris qui s'appelait Publimode, rue du Roi de Sicile. Et le fondateur de ce laboratoire Publimode vient de nous quitter. Il y aura une cérémonie demain au Père Lachaise à 11h30, et c'est quelqu'un qui était important, puisque moi je évidemment c'est une raison un petit peu particulière, mais aussi bien en musique on a les ingénieurs du son, alors évidemment les plus connus comme Rudy Van Gelder pour le label Impulse, ou Glyn Johns ou Geoff Emerick pour les Beatles et les Rolling Stones. Il y a toujours des hommes de l'ombre qui font je dirais en sorte que les artistes puissent travailler dans de bonnes conditions. Eh bien, voilà, Publimode a été fondé par Roland Binesti qui a été vraiment pendant toutes ces années défenseur des artistes et des photographes notamment, et puisque Banlieue Bleue tous les photographes qui ont travaillé pour Banlieue Bleue ont tiré chez Publimode. Alors il faut juste savoir que le labo existe, il a été repris, ça aussi quelque chose d'important, a été repris par les anciens membres personnels de ce labo, malgré le numérique, comme beaucoup de choses, le vinyle, la cassette, et bien l'argent revient en force, et donc ce labo continue contre vents et marées, et donc c'était important de le citer. Voilà, les hommes de l'ombre, ceux dont on ne parle jamais, mais qui sans eux en fait le travail se ferait pas, hein. Pareil pour Coltrane, sans Rudy Van Gelder c'eût été compliqué, et les Beatles sans Geoff Emerick ou Glyn Johns pour les Rolling Stones pareil. Et bien voilà, Roland, c'était mon petit coup de chapeau personnel. Voilà, nous allons donc maintenant rendre hommage à Peter Brotzmann, dit le bulldozer. Alors, c'est un musicien qui est né le 6 mars 41 et qui est décédé le 22 juin dernier, qui est un pionnier de la figure du free jazz en Europe. Moi, je l'ai connu lorsqu'il jouait avec Hans Bennink, notamment, et puis le Globe Unity Orchestra. J'avoue que c'est quelqu'un d'important parce que il est autodidacte, saxophone et clarinette, puis il joue aussi d'un autre instrument qui s'appelle le tarogato. Alors je sais pas du tout ce que c'est, je me suis pas renseigné. Donc par contre, il a plus d'une cinquantaine d'albums sous son nom ou en collaboration avec des musiciens. Donc c'est très très brutal, hein, on va dire les choses, c'est vraiment du free jazz radical. Il s'est fait connaître évidemment en 1968 avec le fameux disque Machine Gun, hein, Mitraillette. Bon, je dois dire que même à l'époque, quand j'ai la première fois que j'ai écouté dans les années 70, ça m'avait pas convaincu. Donc il a toujours fait ça, c'est-à-dire un jeu surpuissant. Après chaque solo, il changeait d'ange parce qu'il les avait explosés. Donc à la fin, je pense qu'il valait mieux qu'il se rabote des boîtes de camembert. Voilà, donc je vous ai sélectionné un concert avec Sonny Sharrock, évidemment, le guitariste fou, Bill Laswell à la basse électrique 6 cordes. Alors, c'est une guitare électrique, mais basse, c'est-à-dire qu'en fait, elle a des cordes un petit peu plus grosses, mais qui joue sur la tonalité de grave d'une basse normale, mi la ré sol. Et Ronald Channel Jackson à la batterie, qui aussi dit des choses très très particulières. Et évidemment, Peter Bulldozer Brotsman au ténor, dans un groupe qui était qui s'appelait Last Exit. Et donc, on va écouter un extrait qui s'appelle Destination Out. Voilà, en attendant nos amis de Epsilonia. Comme nous sommes une radio libertaire et que c'est un jazz particulièrement libertaire, mais il y en a d'autres, j'étais plus convaincu par Portal, justement, dont je parlais, ou Bernard Lubin, ou ce genre d'expérience. Donc, voilà, je vous dis donc rendez-vous dans 15 jours pour un début de ma playlist personnelle, avec laquelle, j'espère, je vous passerai un été frais et swingant. Voilà, c'est parti, Laurent. À bientôt, bye bye, Fraternity Swing, et soyez forts.
après on va se donner un petit tango tous les deux dans le studio.
Epsilonia.
Put on a cell wall in order to drive somebody crazy.